Tellement est-ce qu'on a vraiment besoin de la SF pour nous dire attention, la technologie risque de tout casser, c'est bon, il suffit qu'on regarde par la fenêtre. Par contre, peut-être qu'on a besoin de la SF pour se dire mais le pire n'est pas forcément possible, comme le dit merveilleusement Katie Stewart, on n'est pas à l'abri que tout se passe bien, et donc on peut peut-être s'autoriser au moins à imaginer des mondes humains et meilleurs.
Donc Solarpunk pour un recueil positif. Merci beaucoup Mélanie.
Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité.
Et puis peut-être à bientôt. Merci à vous chers auditeurs, n'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Allez faire un tour sur notre site parce que en ce moment on a un projet assez fantastique pour 2025 qu'on vous propose en financement participatif, c'est de faire un studio de radio école qu'on va pouvoir prêter en plus aux associations qui veulent défendre leur cause de manière radiophonique. Allez, à bientôt.
Cause commune, cause-commune.fm.
Psst, on aimerait vous rencontrer.
Ça vous dit ? Cause commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Cécilia Bossard, développeuse libriste, consultante senior chez Chaudeau Nantes. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique de Julie Chaumard sur les Tilleuls, une coopérative basée sur le logiciel libre, et aussi la chronique de Marie-Odile Morandi sur le vote électronique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 avril 2025, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, ma collègue Isabelle Avani. Salut Isa.
Salut Fred, et bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer avec la chronique « À la rencontre du libre » de Julie Chaumard. Pour sa chronique, elle parcourt le monde à la recherche de personnes et d'organisations utilisatrices et contributrices de logiciels libres pour recueillir leurs pratiques et leurs besoins. Aujourd'hui, c'est une rediffusion d'une chronique intitulée « Les Tilleuls, une coopérative basée sur le logiciel libre ». On se retrouve dans 10 minutes.
Pour la première de la chronique « À la rencontre du libre », nous allons interviewer Salomé Yaya Chérif, une jeune femme qui travaille pour la coopérative Les Tilleuls, qui a été créée en 2011 et qui est dirigée aujourd'hui par Kevin Dunglass, un des fondateurs historiques, et par Marion Agé, qui est également directrice technique. Salomé, si tu es là, peux-tu nous en dire plus sur toi et sur cette coopérative ?
Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, bonjour. Parfait. Salomé, merci.
Et merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, je me présente, je suis Salomé, je fais partie de l'équipe commerciale chez lestilleuls.coop. Pour vous en dire un peu plus sur qui nous sommes, donc nous sommes une société de services. On accompagne donc nos clients via des prestations de services web, que ce soit en développement, en consulting, en formation, etc. Et notre particularité, vous l'aurez compris, c'est qu'on est une coopérative.
Merci Salomé, cela fait plaisir de voir donc une bonne parité femmes et hommes à la direction des Tilleuls avec ce duo de dirigeants. Qu'en est-il pour le reste des salariés de la communauté et quelles actions faites-vous aux Tilleuls pour permettre un bon équilibre et de ne pas vous retrouver avec beaucoup plus d'hommes que de femmes ? Je pense sûrement que c'est le cas, tu vas nous dire, parce que c'est le domaine technique qui contient encore aujourd'hui plus d'hommes.
Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a deux co-gérants, Kevin et Marion. C'est quelque chose qui est très important pour nous et qui a toujours été un choix d'avoir une cogérance mixte. On a aussi plusieurs femmes parmi des postes à responsabilité et des postes assez élevés chez nous, que ce soit dans l'équipe, par exemple, chefferie de projet, en marketing, en développement. On travaille beaucoup au niveau de notre attractivité, pardon, pour attirer plus de femmes, parce qu'effectivement, au niveau de nos effectifs, on a plus de développeurs que de développeuses. Donc pour ça, on essaye d'instaurer un maximum d'égalité. Ça fait partie de notre ADN en tant que coopérative. Par exemple, on propose une grille de salaire qui ne fait pas de différence selon le genre, ce qui est quand même assez normal, mais qui n'est pas toujours intégré partout. On propose aussi des congés menstruels et d'autres mesures, comme par exemple un réel suivi pour le retour de congés maternité.
Oui, il faut aussi que les femmes se sentent, capables de devenir développeurs et que ça vient depuis l'enfance et le système éducatif. Pour en revenir au tilleul, quels sont les services que vous vendez exactement ?
Alors, c'est très diversifié. Comme je l'ai dit au début, soit on peut accompagner nos clients en développement, donc que ce soit dans leur équipe ou en autonomie. On fait aussi du consulting, tout ce qui va être conseil, audit, etc., de l'hébergement, de la formation. Et nos clients sont assez diversifiés. Ça va de la très grande entreprise à la petite start-up locale.
D'accord. Et donc, vos clients, il y a une part public-privé?
Alors oui, on travaille beaucoup avec des acteurs publics, notamment avec des appels d'offres, mais on travaille aussi avec des clients privés. Au niveau de la part, je dirais qu'on a quand même beaucoup plus de clients privés à l'heure actuelle.
D'accord, non, c'est bien. Et tu as des exemples de ces clients ?
Oui, par exemple, on travaille avec des clients, on va dire, qui sont assez connus comme France TV, Arte. On travaille aussi avec Decathlon, avec Mediapart par exemple, donc on est dans tous les types de secteurs. On travaille aussi pas mal donc avec les médias, les fédérations sportives, le retail, c'est assez diversifié.
Donc ces clients utilisent l'écosystème du logiciel libre parce que vous, en tant que tilleul, vous êtes basé sur l'écosystème ou sur le logiciel libre?
Oui, exactement. En fait, on est expert, on est reconnu pour notre expertise en logiciel libre, à la fois par nos contributions dans plusieurs logiciels et frameworks très connus comme Symfony par exemple, Laravel, Kadi, etc. Et on a aussi nos propres logiciels libres qu'on a développés, donc qui sont API plateformes qui vous permettent de créer des API standardisées.
C'est quoi l'API ?
Alors, une API, ça va vous permettre de communiquer entre deux outils, entre deux applications. C'est un peu comme un pont, en fait.
Merci.
Donc, API plateforme et FrankenPHP, donc, qui est un serveur d'application qui va vous permettre d'améliorer vos performances, les performances de vos applications. On est aussi auteur et autrice d'ouvrages et on donne des conférences sur le logiciel libre. Ça fait vraiment partie de notre ADN. En tant que coopérative, on croit beaucoup et on défend le logiciel libre et l'accès à toutes et à tous, à un web, on va dire, qui est accessible. Donc, on contribue au quotidien, que ce soit dans nos projets internes, on va dire, ou dans les projets clients.
Donc, vous avez à cœur de participer à l'écosystème et à l'enrichissement et au déploiement du logiciel libre?
Exactement, oui.
Et pourquoi les salariés, les membres de la coopérative, les salariés, pourquoi les clients achètent-ils vos services et quelle est pour eux la valeur ajoutée du logiciel libre ?
Alors, du coup, ils achètent nos services parce qu'on met en place les prestations, mais comme je l'ai dit, effectivement, ce sont des logiciels libres qu'on propose. Ça permet de nombreux avantages. On est quand même assez reconnu dans ce milieu-là, notamment des avantages de performance. Et on permet aussi d'avoir accès à des fonctionnalités qui ne le sont pas dans certains logiciels qui sont payants. Et aussi un gros avantage, c'est que c'est gratuit pour nos clients. Donc ils ont accès à vraiment une communauté et à énormément de ressources qui leur permet aussi de développer des fonctionnalités très personnalisées dans leurs applications.
Oui, donc comme tu nous dis, les clients achètent vos services et pas les logiciels libres.
C'est ça.
Voilà, bien précisé. D'après ce que je comprends aussi, le logiciel libre et l'écosystème du libre est aussi important pour la souveraineté des données. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai lu ce matin dans un article de l'April que pour la Cour des comptes, les objectifs sont encore insatisfaisants dans la promotion des logiciels libres. Donc il y a encore du travail à faire, notamment au niveau de l'État. Et justement, ça rejoint la question que je voulais te poser par rapport à l'évolution donc du logiciel libre pour vous depuis 13 ans que la coopérative existe. Est-ce que vous observez une croissance dans l'utilisation du logiciel libre et une demande aussi de la part des acteurs?
Alors effectivement, pour nous, le logiciel libre est en croissance. On le remarque parce qu'on a effectivement beaucoup plus de demandes qu'avant, que ce soit sur les logiciels qu'on a créés ou pour les accompagner à l'utilisation des logiciels libres existants. Je pense aussi que la croissance du logiciel libre repose aussi sur le fait que ça permette de mutualiser les coûts. C'est quand même un point qui est non négligeable dans le développement web, donc c'est un vrai avantage. Et on remarque de plus en plus que le secteur se professionnalise et que de plus en plus de grandes entreprises nous contactent pour mettre en place le logiciel libre dans leur organisation et notamment en France.
Ah, c'est super, merci d'avoir donné le ressenti de est-ce que vous vivez au tilleul. Et effectivement, la Cour des comptes parle de mutualiser, comme tu dis, ça a l'air aussi d'être un des nerfs de la guerre. Et alors, pour finir la note finale de cette chronique, Salomé, tu vas nous parler d'un événement que les tilleuls proposent maintenant depuis 4 ans et qui est une conférence à Lille, mais qui est aussi accessible en ligne. Cela s'appelle l'API Plateforme Conférence. Cela se déroule le 19 et 20 septembre. Et donc, Salomé, peux-tu nous dire qu'est-ce que l'on va découvrir à cette conférence ?
Oui, bien sûr. Alors, tu as donné déjà pas mal d'infos. Donc, cette conférence, elle sera orientée autour du framework API Plateforme, mais aussi autour de son écosystème. L'idée, c'est qu'on accueille nos 700 participantes et participants pour assister à des conférences, donc de personnalités assez connues, que ce soit du logiciel libre ou de l'écosystème d'API plateforme en général. Il y a aussi plusieurs coopératrices et coopérateurs qui vont avoir la parole à cette occasion. Donc l'idée, c'est d'accueillir des personnes pendant 2 jours pour leur faire profiter un peu des nouveautés qu'on peut apporter dans le logiciel libre et notamment sur API plateforme.
Bon, c'est un grand événement et donc nous allons hâte de voir ces retombées. Et en tout cas, merci beaucoup Salomé pour ton intervention et d'avoir répondu à nos questions. On pourra retrouver tous les liens et les infos de cette chronique et des tilleuls sur la page de l'émission Libre à vous. Et à bientôt pour une prochaine rencontre avec les personnes qui font le libre.
Merci beaucoup.
Donc comme vous l'avez compris, nous venons d'écouter une rediffusion d'une chronique Les Tilleuls, une coopérative basée sur le logiciel libre, chronique de 2024. Donc quand Julie évoque l'API plateforme conférence, l'API conférence, elle dit les 19 et 20 septembre, c'était en 2024. En 2025, ça aura lieu les 18 et 19 septembre 2025 à Lille, et vous retrouverez sur la page de l'émission consacrée, à la page consacrée à l'émission du jour, le lien vers la conférence et le lien vers le site des Tilleuls. La page de l'émission du jour, c'est libreavoue.org/244. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous irons à la rencontre de Cécilia Bossard. Alors pour les pauses musicales aujourd'hui, je vous fais redécouvrir l'un de mes groupes préférés, Freak Fandango Orchestra. Nous allons donc écouter At the Beginning par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. See you.
J'espère que vous avez dansé comme nous au studio. Nous venons d'écouter At the Beginning par The Freak Fandango Orchestra, morceau disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC BY SA 3.0.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui est un parcours libriste avec notre invitée Cécilia Bossard, développeuse libriste, consultante senior chez Chaudeau Nantes. Alors un parcours libriste, c'est l'interview d'une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Bonjour Cécilia.
Bonjour.
Alors avant de commencer, n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Salon libre à vous ou éventuellement au téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Alors Cécilia, d'abord c'est un grand plaisir de t'avoir dans une nouvelle fois dans l'émission. Tu es déjà intervenue pour parler de façon rapide des Duchesses France dont on va reparler aujourd'hui et également de façon plus longue sur les gestionnaires de versions centralisées, décentralisées plutôt au contraire, notamment pour parler de Git il y a quelques mois. Mais aujourd'hui on va parler de toi, ça va être le sujet. Et donc ma première question en fait, c'est que je me souvenais que la prise de parole en interview n'était pas forcément quelque chose avec laquelle tu te sentais particulièrement à l'aise. Donc j'étais un peu surpris, alors positivement, de ne pas avoir eu à insister un peu pour que tu acceptes d'intervenir. Alors ma première question, c'est pourquoi tu as accepté d'intervenir ?
Oui, je suis encore un peu surprise aussi. c'est vrai que ma première réaction, ça a été de me dire « Non, déjà, j'aime pas trop parler de moi ». C'est encore pire, et je me suis dit que mon parcours n'était pas non plus particulièrement exceptionnel ou audacieux ou autre. Et après, je me suis rappelé de tous les messages que j'essaye de faire passer avec les Duchesses, entre autres, qui est une association de promotion des femmes dans le numérique, où je dis que justement, il faut regarder autour de soi et s'inspirer des autres et de leur parcours. Et en fait, c'est l'occasion de mettre en application ce que je prêche par ailleurs.
Voilà. D'accord. Donc un peu
ma réponse positive.
Être un peu un rôle modèle dont tu effectivement qui est nécessaire, enfin qui est très utile pour encourager d'autres personnes à intervenir, à devenir développeuse ou autre.
Voilà, voir qu'on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour faire ce que je fais.
Tout à fait. Et ça change des rôles modèles auxquels il est difficile de s'associer ou en tout cas de s'identifier comme par exemple Marie Curie avec ses deux doctorats ou autres.
Ou avoir des rôles modèles vivants aussi, c'est pas mal.
Aussi, parce qu'effectivement, dans l'informatique, on a la célèbre Ada Lovelace à qui on a déjà consacré une émission, mais effectivement, ça fait longtemps et les rôles modèles vivants, c'est quand même mieux. Alors donc, en tout cas, merci d'avoir donc accepté d'intervenir. Alors, on va pas trop parler de ton parcours personnel, mais quand même un petit peu, parce que c'est quand même intéressant de voir comment les personnes se construisent d'où elles viennent et notamment dans l'informatique. Donc ma deuxième question, c'est en fait tout simple. Hein, quand et à quel moment et comment as-tu découvert l'informatique ?
Alors l'informatique telle que je la pratique maintenant, j'ai découvert ça pendant mes études. Déjà, en fait petite, j'avais déjà pas mal accès à des ordinateurs. Mon père était instituteur et il en avait dans sa classe. Donc, c'était dans les années 80, c'était pas très commun. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il avait des réunions ou qu'il reste un peu tard à l'école, on avait le droit de jouer sur les ordinateurs. Donc voilà, on lançait des jeux en ligne de commande. Donc je comprenais rien de ce que je tapais, mais je savais quelles touches il fallait frapper les unes après les autres.
Mais ça lançait des jeux qui étaient graphiques ou des jeux qui étaient en mode console, comme on dit
Ouais, c'était plutôt en mode console. Hein. C'était une espèce de Pac-Man ou ce genre de choses, mais
d'accord.
C'était pas, merveilleux à voir, mais on s'amusait bien quand même. Et il m'est arrivé une fois où j'avais pas forcément envie de jouer, de tomber sur un de ses livres qu'il avait, un livre de programmation en basique. Voilà, où j'ai commencé à taper bêtement, recopier ce qu'il y avait écrit dans le livre pour voir ce que ça faisait. Bon, j'avais toujours pas très bien compris. Mais...
Et ça, tu faisais ça sur les ordinateurs de l'école ou c'était où tu avais un ordinateur à la maison?
Ça, c'était les ordinateurs de l'école.
D'accord. Donc, qui étaient équipés comme système d'exploitation d'un Windows, c'est ça?
Non, il n'y avait même pas encore Windows.
Ah, c'était... Nous venons d'écouter Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA 3.0.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Donc nous allons poursuivre la discussion avec Cécilia Bossard et son parcours libriste. Donc Cécilia, développeuse libriste et actuellement consultante senior chez Chaudonnant, dont on parlera dans la deuxième partie de l'échange. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions de ces sociétés de services dans laquelle tu as fait tes premières armes. Et sur le salon web, on me demande, mais alors est-ce que tu utilisais du logiciel libre? Est-ce que tu développais du logiciel libre dans ces sociétés de services?
Eh bien, malheureusement, non.
Alors, ça a été quand la découverte de la part finalement du logiciel libre à titre professionnel?
À titre professionnel, alors on en utilisait évidemment on l'utilisait comme outil, mais oui. On faisait pas de contribution.
D'accord.
Voilà, tous les serveurs étaient sous Unix, mais nous on avait des postes de travail sous Windows et puis voilà. Et les entreprises voulaient bien en utiliser parce que c'était gratuit, du coup c'était pas mal. À part ça, je pense qu'il n'y avait pas trop d'autres arguments, du moins de la part des grandes directions de ces entreprises. J'ai vraiment mis le pied dans le développement de logiciels libres quand j'ai intégré la société Code Lutin, qui du coup,
qui est une société spécialisée en logiciels libres.
C'est ça.
Donc
voilà.
quand tu l'as rejoint, tu l'as rejointe parce qu'elle faisait du logiciel libre ou pour une autre raison?
Entre autres, mais c'était aussi le modèle d'entreprise qui m'avait attiré, sachant que j'arrivais tout juste, je travaillais à l'époque au CHU de Nantes, donc c'était pas tout à fait le même modèle d'entreprise que Code Lutin.
Non, ça.
Qui est un modèle à plat. Le CHU c'était très 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 pyramidal. Voilà.
Donc c'est le centre hospitalier de l'université.
Oui, c'est ça, voilà. Donc au service informatique de l'hôpital de Nantes.
D'accord.
Où on adaptait un énorme logiciel américain au modèle de fonctionnement du service du système de santé français. Voilà, donc c'était pas libre. Mais avec d'autres personnes du service, on essayait de mettre en place des outils libres, ne serait-ce que pour les outils de communication. On avait mis en place un Mattermost pour pouvoir communiquer entre nous.
Donc un sort de forum, quoi, c'est ça, Mattermost?
Oui, c'est ça. Voilà, okay. C'est qui nous permettait de une sorte de chat pour discuter entre nous. entre nous et avec les soignants qui utilisaient le logiciel pour pouvoir les aider.
Mais néanmoins, tu choisis de partir, c'est ça
pour, Oui, parce que la pyramide, à force de m'écraser, a fini par me faire très très mal.
Ah, quand tu parles de la pyramide, c'est la pyramide hiérarchique, c'est ça?
Hiérarchique, oui. D'accord. C'était très, très difficile.
Mais pire que dans une entreprise privée?
J'ai trouvé ça pire, oui. Il y avait vraiment cette notion de cadre, c'était les cadres de santé qui nous encadraient et qui avaient la façon de gérer des équipes médicales. Enfin, on leur apprenait à gérer des équipes comme sont gérées des équipes médicales, alors qu'une équipe informatique fonctionne pas tout à fait de la même manière. Enfin, en tout cas, je compatis beaucoup avec les équipes médicales parce que ça va pas être facile à vivre.
D'accord.
Quotidien, ce genre de management.
Ok, donc tu choisis de quitter le CHU de Nantes pour rejoindre donc Code Lutin, à la fois parce que cette entreprise fait du libre, mais surtout par son modèle organisationnel. Donc, est-ce que tu peux nous décrire en une ou deux phrases le modèle organisationnel de Code Lutin?
C'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie. Chaque lutin, c'est comme ça que s'appellent les personnes qui travaillent avec Code Lutin. Chaque lutin a le même la même voix au chapitre que les autres. Il y a un salaire unique. Voilà, c'est vraiment l'égalité partout.
D'accord. Et on peut préciser que Code Lutin fait partie d'un réseau plus large, enfin plus large, peut-être d'une quinzaine d'entreprises qui s'appelle le Libre Entreprise.
Qui
partage des valeurs organisationnelles. Et donc c'est là où tu vas faire principalement du logiciel, parce que Code Lutin a priori fait du logiciel libre.
Oui, c'est ça. Voilà. J'ai travaillé essentiellement sur un seul gros projet.
D'accord.
Mais ce projet est en licence libre. Bon, après, ce qui peut être utilisé par d'autres, je pense difficilement.
C'est quel projet? Si c'est pas indiscret. Hein.
C'était un projet pour l'Office français de la biodiversité, pour la gestion des réseaux d'eau dans les communes. Donc, c'est quand même assez spécifique. Je pense.
Oui.
Je sais pas si d'autres personnes peuvent l'utiliser ailleurs, mais en tout cas, c'était en licence libre.
D'accord, et donc tu l'écrivais, c'était en quel langage? C'est du Java, je suppose?
C'était du Java, oui.
Oui, je dis je suppose, parce que Code Lutin est un peu spécialisé dans le langage Java.
Java. Oui,
d'accord.
C'est ça.
Et tu restes combien de temps donc chez les lutins, alors?
J'y suis resté 5 ans.
D'accord.
Chez les lutins, voilà, donc je les ai quittés il y a 2 ans pour rejoindre Chaudeau.
Ah, Chaudeau. Alors Chaudeau, c'est pas la première personne qui parle de Chaudeau sur Cause Commune. C'est une entreprise qui est, alors tu vas me dire, hein, mais qui est très réputée pour avoir une politique très inclusive et en faveur notamment de l'embauche des femmes, avec de mémoire notamment des réunions non mixité, congés menstruels, serviettes hygiéniques dans les toilettes. Enfin, en tout cas, c'est une entreprise qui est très réputée pour ça, qui intervient notamment dans des conférences autour de la tech et de la mixité, comme par exemple Mixit, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est les raisons qui t'ont fait rejoindre Chaudeau ou il y a d'autres raisons?
Alors, c'est une des principales raisons, oui. Au début, c'était un peu par curiosité, en fait.
Ouais.
J'en avais entendu parler sur le Slack, donc notre système de discussion des duchesses.
Ouais.
Et du coup, j'étais assez sceptique, assez dubitative, en me disant, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est que du marketing? Il y a un loup quelque part.
Bah, tu peux pas nous dire parce que ça fait 2 ans que tu y es. Tu t'y vas comme ça en disant, bon, c'est ça d'être super, donc je veux découvrir, quoi.
Oui, voilà. Et leur cœur de métier étant ce qu'on appelle le craft. Donc,
oula, c'est quoi ça?
Logiciel.
Explique ce que c'est que le craft et l'artisanat logiciel, alors.
C'est
pas évident, hein.
Oui, j'essaie. Alors, je m'excuse auprès de mes camarades si j'explique mal. Mais en gros, c'est les bonnes pratiques de code. Voilà, faire du code qui soit réutilisable, lisible, qui corresponde aux besoins des utilisateurs.
Dans les bonnes règles de l'art, comme finalement une personne qui ferait de l'artisanat.
C'est ça, voilà. On fait des logiciels aux petits oignons.
Aux petits oignons, d'accord. Ok. Et donc tu rentres chez Chaudeau il y a 2 ans. À quel poste tu y rentres? Parce que moi, là, dans la description, j'ai mis consultante senior chez Chaudeau Nantes. Tu y rentres comme consultante senior, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'avec 18 ans d'expérience.
Ouais. Mais c'est quoi une consultante senior? Alors, c'est quoi le travail d'une consultante senior?
Ah bah c'est, au final, c'est pas, ça change pas grand chose. Je fais toujours du développement. Je suis envoyée en mission chez des clients où je fais du développement essentiellement. Mais aussi, je les aide et je les accompagne à mettre en place des bonnes pratiques de code et à améliorer un peu leur pratique.
D'accord. Et alors, je suppose, vu la réputation qu'a Chodo, chez Chodo, il y a plus de femmes que dans d'autres entreprises.
Oui. Bah, ça fait plaisir.
Ah. Voilà. Donc, c'est pas que du, c'est pas que de la com, c'est pas trop beau pour y croire, c'est que c'est vrai en plus, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Oui. Il y a effectivement plus de femmes. Quand je suis arrivée à l'agence de Nantes, il y en avait déjà une. Waouh, c'était bien. Et maintenant, on est beaucoup plus nombreuses.
Ah, parce qu'il faut, faut préciser, Chodo, donc c'est une entreprise qui est implantée dans plusieurs villes, c'est ça. Toi, t'es à Nantes. Et donc, c'est dans combien de villes de France?
Donc, il y a Paris, où c'est la maison mère. Il y a Nantes, Rennes, Lyon, Lille, La Réunion aussi.
Ah oui, carrément.
Oui, bah, parce que pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas, ouais.
Voilà. Et je crois que c'est tout.
D'accord.
Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal.
D'accord. Et donc, ça fait 2 ans que tu y es, je suppose que tu t'y sens bien.
Oui, pour le moment, tout va bien.
Pour le moment, tout va bien, d'accord. Et donc, toutes ces. Alors, est-ce que tu participes aux réflexions, justement, autour donc, des actions de l'inclusivité dont par exemple, la responsable de Chodo, Laurie Maurice, a parlé à Mixit l'an dernier. Est-ce qu'il y a un groupe interne qui participe à ça ou c'est tout le monde qui, finalement, propose?
On a des groupes on a ce groupe en non-mixité. On essaie de se réunir régulièrement pour réfléchir aux prochaines actions à mettre en place. Parce qu'on a une sorte de cagnotte, entre guillemets, mise à disposition. Voilà, on a un budget pour mettre en place ces actions. Donc, faut réfléchir à quoi mettre en place qui pourrait favoriser tout le monde, en vrai.
D'accord. En tout cas, en tout cas, c'est bien d'avoir aussi un budget parce que c'est de temps en temps, c'est aussi les moyens qui manquent. Hein. C'est pas forcément les ambitions.
C'est ça. Sinon, ça reste que tes paroles en l'air. Et,
exactement.
Et c'est le congé menstruel, il y a besoin d'être financé, typiquement.
Ouais. D'accord. Oui. Alors tout à l'heure, tu as parlé un peu, parce que je voudrais qu'on revienne un peu, parce que le temps file, en fait, sur les communautés auxquelles tu participes. Alors, on ne va pas forcément pouvoir parler de toutes, mais en tout cas, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Bon, la première, c'est, même si on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les Duchesses France. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les Duchesses France et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire partie de cette communauté?
Donc, les Duchesses, c'est une communauté de femmes dans les métiers techniques du numérique. Donc on fait pas mal de choses, mettre en avant des personnes, des femmes, hein, faire des sortes de rôle modèle, encourager les femmes à parler en public lors de conférences informatiques, il y a du soutien à la recherche d'emploi, enfin il y a pas mal d'aide en fait. On essaye de faire aussi quelques soirées un peu à thème, où on va avoir que des femmes qui vont parler en public. Voilà, en général, ces soirées, elles sont ouvertes à tout le monde, mais ce sont que des femmes sur scène. On a d'ailleurs notre soirée anniversaire au mois de mai à Paris.
Est-ce que c'est quoi? C'est les 15 ans cette année, non?
Oui, on doit en être pas loin de là, oui.
Je crois que c'est 2010, hein, mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est... Bon.
C'est ça, voilà. Je suis pas sûr que l'événement soit déjà publié, donc je vais pas en dire plus.
Ok, mais de toute façon, on l'annoncera. Je vais relayer une question. On va juste revenir une seconde en arrière, parce qu'il y a une question sur le salon web. On parlait tout à l'heure, juste à l'instant, de Chodo et les mesures en faveur de l'inclusivité. Et la question, c'est les hommes de la boîte, quelle posture ont-ils par rapport à ces mesures?
Ils sont tous très contents, j'ai l'impression. Enfin, après. Pas trop leur mot à dire, en vrai. C'est notre budget, donc.
Voilà. Oui, c'est ça, oui, voilà, exactement, oui, tout à fait, ouais.
Voilà, Laurie est un peu bataillée au début pour réussir à faire passer ce principe de réunion en non-mixité, le congé menstruel, elle a pas mal bataillé, et maintenant c'est acquis, et tout le monde j'ai l'impression que tout le monde trouve ça normal, et c'est pas remis en question.
D'accord.
Dans les moments difficiles, l'été dernier, c'était un peu compliqué d'un point de vue commercial.
Ouais.
Le milieu de l'informatique, c'est un peu ralenti commercialement. Et en tout cas, ces mesures-là n'ont pas du tout été remises en cause. C'est de l'acquis et on ne reviendra pas dessus.
D'accord. Donc, il y a eu un travail de pédagogie pour expliquer l'intérêt de ces mesures. Mais aujourd'hui, ces mesures sont acquises et ne seront pas remises en question. Ça, c'est plutôt bien. Hein.
Voilà.
D'accord. Alors, on va revenir sur les Duchesses France. Donc, bientôt à l'anniversaire, sauf si je me trompe, des 15 ans. Et on annoncera évidemment la date quand la soirée anniversaire aura lieu. Ça sera lieu à Paris ou ailleurs ?
Ça sera à Paris.
Ça sera à Paris, d'accord. Donc, ça sera une soirée donc ouverte à toute personne, même si sur scène, il y aura a priori, si j'ai bien compris, que des intervenantes. C'est ça ?
C'est ça, voilà.
Ok. Et tu fais partie aujourd'hui maintenant de l'équipe, de la core team, ce qu'on appelle la core team, c'est-à-dire l'équipe du Duchesse France, c'est ça ?
Oui, voilà, l'équipe qui organise un peu tout ça. Donc après, c'est pas, ça demande pas non plus, c'est pas énorme, hein. Mais effectivement, on organise cet événement annuel au moins, et puis on anime aussi notre salon de discussion, là, notre Slack.
Ah oui, dont tu parlais, oui.
Donc. Voilà, qui est un salon qui est non mixte. Voilà, on l'a passé en non mixité. Donc on anime aussi, voilà, on fait le contrôle à l'entrée. C'est un peu malheureux, mais voilà, on a été obligé de faire ça.
Oui, parce qu'en fait, vous avez eu des... parce que Florence Chabanneau en a parlé dans une émission,
oui.
Ici. Vous avez eu au débat, enfin à un moment quand c'était non mixte, des soucis avec des hommes qui foutaient un peu en gros le bordel. Et donc vous avez dû faire en non mixité.
Voilà. C'est ça, voilà. Donc on a cette animation de communauté ça se passe très bien. On a rarement de conflits à gérer. Et puis moi personnellement, j'essaye de faire des petites activités sur Nantes, ne serait-ce que
quel genre
pour un déjeuner.
Ah, ok.
Voilà.
D'accord.
Ou j'ai récemment organisé une petite table ronde, c'est pareil, sur les femmes dans l'IT. Et j'aimerais faire d'autres choses, mais je manque un peu de temps.
Je comprends. Alors, dans des autres communautés, comme je dis, on ne peut pas toutes les citer. Il y en a une qui m'intéresse aussi, parce que je trouve qu'elle est très intéressante. C'est les codings goûtés. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les codings goûtés et ce que tu faisais, donc, a priori, avec ton conjoint, si j'ai bien vu.
Oui. Donc, les codings goûtés, c'est des ateliers d'initiation, ou pas d'ailleurs, à la programmation. C'était, en fait, on se retrouvait un dimanche après-midi par mois pour coder en famille. Donc, c'était ouvert à tous. La seule contrainte, c'était que les enfants qui venaient devaient être accompagnés d'un adulte. Donc, à eux de choisir l'adulte qu'ils voulaient. Ça pouvait être leurs parents, mais ça pouvait être des amis ou autres, peu importe. Et puis, on apprenait tous ensemble la programmation de manière ludique. Voilà. Donc, parfois c'était les enfants qui apprenaient aux adultes, parfois c'était les adultes qui apprenaient aux enfants. Enfin, c'était un beau mélange, un peu le bazar, avec du goûter par-dessus et voilà, des gâteaux, des boissons. C'était rigolo.
Et à la fin, les enfants qui le souhaitaient pouvaient montrer ce qui avait été fait.
Oui, voilà.
Voilà. Et s'il y avait un côté fierté de montrer ce qu'on avait pu faire, quoi.
C'est ça. Voilà. Bon, même si. Ah, ceux qu'on organisait à Nantes, on n'arrivait pas toujours à faire en sorte qu'il y ait une petite démo à la fin.
Une restitution, d'accord.
Oui. Mais on avait beaucoup de... Alors, c'est vrai qu'à Paris, ils avaient ce format, c'était très récurrent.
Oui.
C'était un peu toujours les mêmes qui venaient. Nous, à Nantes, on s'est retrouvés avec beaucoup de personnes qui venaient pour la première fois. On avait beaucoup de débutants qui venaient. Enfin, de débutants, pas forcément débutants, mais des gens qui venaient pour la première fois, qui... Là, on leur montrait 3-4 outils. Après, on les voyait plus pendant quelques temps, puis ils revenaient. Enfin, voilà, donc, on passait beaucoup de temps à refaire un peu les initiations. Donc, c'est vrai qu'avec mon conjoint, ça nous prenait, voilà, ça nous empêchait un peu de nous occuper de nos propres enfants pendant ce temps-là. C'est un peu embêtant. Mais après, nos filles s'occupaient d'aller expliquer aussi aux autres comment ça marchait. Donc,
d'accord.
La pédagogie continue.
D'accord. Arias, quelques minutes pas longues. Est-ce que tu as envie de parler d'une autre communauté ? Parce qu'il y en a plusieurs que j'ai sous les yeux.
Non, c'est vrai que celle qui me tient particulièrement... Oui, entre les Duchesses et la programmation pour les enfants, je crois que c'est Les deux qui me tiennent vraiment à cœur.
D'accord. Alors, dans les quelques instants qui nous restent avant la question finale, j'ai vu que tu t'es impliqué. Alors, attends, en préparation de l'émission, tu m'as envoyé à quelque chose d'assez détaillé. Donc, tu t'es impliqué auprès du Parti Pirate lors des législatives et européennes. C'est quelque chose qui est important pour toi, que tu comptes refaire, c'est-à-dire l'implication dans la vie politique nationale, voire locale, dans ta commune?
Oui, alors de manière locale, plus certainement que nationale ou européenne, comme j'ai pu le faire. Là, mon implication sur les législatives et les européennes, c'était essentiellement pour atteindre la parité homme-femme nécessaire. Parce qu'évidemment, le Parti Pirate est à l'image de la communauté informatique, est très masculiniste. Voilà. Donc voilà, comme il y a des obligations de parité.
Tout à fait.
Je m'étais un peu proposé pour compléter les listes sans pour autant vouloir trop m'impliquer dans ces élections là.
C'est-à-dire que tu n'avais pas fait de porte à porte ou de choses comme ça, par exemple?
Non.
Enfin, après, je sais pas. parce que je sais que sur Paris, il y avait eu des opérations qui étaient faites. Donc toi, c'était plutôt effectivement le côté parité parce qu'il y avait une obligation légale.
Je suis allée coller des affiches, mais je ne suis pas allée beaucoup plus loin. En tout cas, par contre, là, localement, je vais peut-être effectivement m'appliquer pour les prochaines municipales.
Voilà. Donc, c'est en 2026, les municipales, ça, ou 2027
Oui, c'est ça, printemps 2026. Oui.
D'accord, ok, cool. Je vois aussi, et t'en parles de temps en temps sur ton compte Mastodon, que tu es devenue, tu as une activité d'apicultrice. C'est une passion pour les abeilles, c'est pour sortir au plein air, à l'air, enfin, au grand air de temps en temps, c'est pourquoi?
C'est un peu les deux. J'ai eu un petit moment de surmenage au travail, activité et autres, et mon médecin m'avait conseillé de faire une activité en extérieur. Et ça faisait longtemps que je voulais avoir des ruches dans le jardin, et je me suis dit que c'était l'occasion. Et voilà, donc maintenant j'ai 5 ruches et je suis obligée de sortir et de voir le soleil pour aller m'en occuper.
c'est... Alors, question sur le salon, est-ce qu'il est bon le miel?
Le peu que je récolte, oui, mais je n'élève pas mes abeilles
pour ça.
Pour la production, en fait. D'accord. J'ai très très peu de miel.
D'accord, ok.
Voilà. C'est... Je laisse vivre leur vie.
Oui, ouais. Alors il reste, il reste quelques instants avant peut-être la dernière question. Je regarde. Peut-être que est-ce que tu avais un sujet qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder? Sans doute, hein, mais ou quelque chose à citer ou un événement à annoncer. Enfin, je sais pas.
Non, c'est bien. J'ai cité l'anniversaire de Duchesse au mois de mai, comme ça, c'est bon.
Ah alors, au mois de mai à Paris, on l'annoncera sans faute. Donc la question finale, alors qui est un petit peu différente des questions finales habituelles de Libre à vous, mais qui est spécifique au parcours libriste. La question finale, c'est: as-tu envie de partager quelque chose qui t'a émerveillé, fait du bien dernièrement?
En fait, ça va faire un peu de redite par rapport à mon activité d'apicultrice. Ouais, c'est vrai que ce qui m'a... Ça va être un peu... Bref. L'arrivée du printemps me réveille toujours autant quand je revois l'activité dans les ruches. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir que malgré tout, la nature continue. Et que j'espère que ça va durer. Et c'est hyper reposant de regarder les abeilles travailler pendant qu'on est en pause.
Je crois que l'arrivée du printemps fait du bien à plein de gens. À titre personnel, dans le jardin, il y a une glycine et ça nous met en joie quand la glycine est en fleur. Alors, il y a quand même une question que j'avais pas vue, que je vais la relayer vu qu'il nous reste quand même un petit peu de temps sur le salon. On te demande quel est ton logiciel préféré. On n'a même pas précisé libre, donc tu peux même citer un logiciel non libre.
Logiciel préféré. Oh là là.
Ouais, je sais pas si t'as un logiciel préféré ou un outil quelconque préféré.
Cet hiver, j'ai découvert un peu mieux Inkscape.
D'accord.
J'ai investi dans une brodeuse, une machine à coudre et à broder, et j'avais besoin de transférer mes motifs. Et du coup, j'ai appris à utiliser Inkscape, et franchement.
Alors, ça fait quoi Inkscape comme
C'est un logiciel de manipulation d'image.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai appris à faire plein de choses que j'imaginais même pas que c'était possible. Et quand je vois que les logiciels propriétaires pour gérer les brodeuses coûtent 5 000 € et que un logiciel libre fait aussi bien, si ce n'est mieux, voilà.
C'est un logiciel très très puissant. Et dans un autre domaine, je le cite, il y a Blender qui fait la création d'images et qui a notamment été utilisé entièrement pour faire un film qui a eu un Oscar récemment en animation qui s'appelle Flow. Et qui est magnifique aussi. Donc effectivement, il y a des logiciels libres dans des domaines où on s'attendrait pas forcément à la qualité. Donc là tu viens de citer Inkscape. Bah écoute, Cécilia, à moins que tu aies quelque chose que tu souhaites rajouter, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi ?
Non, mais c'est tout bon pour moi.
Ok, d'accord. Tu viendras. Si, j'ai une petite question. Tu viendras pour les 15 ans des Duchesses à Paris ou pas ?
Oui, je serai là, oui.
Ah, cool. Bon, on va réserver des places alors. Donc c'était le parcours Libris, donc avec Cécilia Bossard qui est développeuse libriste, consultante senior chez Chaudeau Nantes. Donc sur le site libravou.org/244, il y a les liens vers les Duchesses France, vers Chaudeau Nantes et on rajoutera les liens qui manquent éventuellement. Bah écoute, merci en tout cas Cécilia, c'était un plaisir de t'avoir et je te souhaite une belle fin de journée.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Alors on va faire une pause musicale. Alors pour la pause musicale, on va continuer avec ce groupe, The Freak Fandango Orchestra. On va écouter Balkan Beats. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. We'll be right back.
écouter Balkan Beats par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons passer au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe Transcription. La chronique est écrite par Marie-Odile et mise en voix par Laure Élise Déniel, bénévole à l'April. La chronique du jour est une rediffusion sur le thème du vote électronique. On se retrouve en direct dans 8 minutes.
En période électorale, il semble opportun de lire, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, de relire trois transcriptions qui traitent du vote électronique. Le vote électronique, en quoi le logiciel libre n'est pas la solution, est une conférence proposée en novembre 2011 par Benoît Cibot, qui a été président de l'April et a participé à la rédaction du texte détaillant la position de l'association sur le sujet. Le vote électronique et ses enjeux était une table ronde menée par Jean-Marc Manac en novembre 2014 dans la fameuse émission 14h42. Et tout récemment, le 25 janvier, Madame Chantal Anguard, directrice de recherche à l'Observatoire du vote, organisme qui publie des rapports et particulièrement après chaque élection politique en France depuis 2007, a été reçue dans l'édition 129 de l'émission Libre à vous. Elle s'est entretenue avec Étienne Gonu et François Poulain, trésorier de l'April et membre de la société CLIS21. Vous trouverez tous les liens sur la page concernant l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavous.org. Voter est un acte qu'il nous est demandé d'accomplir dès le collège, voire dès l'école élémentaire. Pour élire le représentant de la classe, pour faire des choix collectifs. Quoi de plus rapide que voter ? Les étudiants votent. Les adultes votent aux élections institutionnelles, européennes, législatives, régionales, municipales, présidentielles, sans oublier les élections professionnelles, les élections au sein d'une association et les référendums. Voter est donc un acte fréquent. Les divers modes classiques de scrutin sont rappelés, la main levée, le vote par courrier postal et le vote avec bulletin papier. Deux types de scrutin sont souvent regroupés sous le nom de vote électronique. Le vote par ordinateur, installé dans un bureau de vote, et les scrutins par Internet via un navigateur. Organiser un vote n'est pas une mince affaire. Tout doit être prêt à temps. Se posent des questions de coût, mais aussi tous les problèmes intrinsèques liés à la diversité de la population qui doit voter. Les intervenants s'accordent pour affirmer que la tentation de fraude est toujours présente, même dans les associations du libre, que des erreurs sont possibles à différents niveaux. Une codification pour encadrer les opérations classiques de vote a été mise au point au cours des années. En 2014, le bureau politique de l'UMP, renommé ensuite Les Républicains, décide de passer au vote par Internet, présenté comme une arme contre la triche, afin d'élire son président. Dans l'émission 14h42, Anne Levade, présidente de la Haute Autorité de l'UMP, en charge du contrôle de ce vote, détaille la façon dont il a été organisé et les déboires auxquels il a fallu faire face. Une attaque par déni de service, d'innombrables connexions en très peu de temps rendant les serveurs inaccessibles, les problèmes de code permettant aux adhérents d'être identifiés, sans oublier les failles de sécurité dont un expert affirme a posteriori qu'elles n'ont pas été exploitées. Laissons les auditeurs et auditrices découvrir les difficultés en cascade que les organisateurs de son vote ont dû affronter et qui sont exposées de façon sincère dans l'émission. Roberto Di Cosmo, présent à cette table ronde, de même que François Poulain, le 25 janvier de cette année, rappelle que sans aucune formation, dans le cas de bulletin papier, quiconque présent dans un bureau de vote, même un enfant, en suivant ce qui se passe autour de l'urne transparente, est capable de comprendre et de se rendre compte que les bulletins qui sont comptés le soir, lors du dépouillement, sont exactement les mêmes que ceux qui ont été mis en place par les électeurs. Sont rappelées les caractéristiques d'un vote démocratique. Liberté de vote. Secret du vote, donc sincérité, anonymat, acceptabilité du résultat et de sa légitimité, et la transparence, qui doivent être respectées et traduites techniquement dans le cas du vote électronique. Roberto Di Cosmo note que, dans l'histoire de l'évolution technologique, les personnes qui poussent à l'utilisation d'une nouvelle technologie sont celles qui la développent, alors que là, ce sont les professionnels de l'informatique, ceux qui connaissent, qui freinent. Et pourquoi freinent-ils ? Les explications de Madame Anguard sont éclairantes. D'abord, affirme-t-elle, il n'y a pas d'urne. il y a la représentation électronique d'une urne, et il est impossible de savoir si celle-ci est vide au départ, puisque, dit-elle, la mémoire d'un ordinateur, c'est toujours plein. Ensuite, de façon très imagée, elle décrit ce qui se passe. La personne fait un geste, par exemple appuie sur un bouton. Ce geste donne une petite impulsion électrique qui est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique est transformé à plusieurs reprises et à la fin, les résultats électoraux sont proclamés. Aucune de ces transformations n'est observable, il est impossible d'expliquer quoi que ce soit, il n'y a aucune transparence. Son ton est ironique. Comment croire les affirmations d'experts qui ne voient rien ? Leur rôle est symbolique. Il y a eu transposition de ce qui se fait pour le vote papier, sauf qu'en informatique, on parle de machines, de logiciels, de codes sources. Les bugs sont intrinsèques, donc partout, les virus s'infiltrent, une grande opacité, une boîte noire. De plus, quand on agit à distance, n'y a-t-il pas finalement une sorte d'infantilisation des citoyens et des citoyennes qui sont alors un peu dépossédés de cet acte politique de décision collective ? Le vote électronique invisibilise un certain nombre d'atteintes possibles à l'anonymat, au secret du vote, à la sincérité des élections. Quels seraient les apports du logiciel libre sur le vote électronique ou par Internet ? Les avantages du logiciel libre sont rappelés. L'accès au code source, qui amène transparence et donc plus de confiance. La revue par les pairs, la correction rapide des bugs, amélioration de la sécurité. La mutualisation du développement du même logiciel, donc indépendance des vendeurs. Cependant, le logiciel libre ne rend pas le scrutin électronique plus facile à expliquer. La dématérialisation est toujours là. Les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique, que ce soit libre ou pas, n'y change rien. Avoir du logiciel libre, et même du matériel ouvert, n'est pas un critère suffisant pour offrir une élection satisfaisante par rapport à nos critères actuels de fonctionnement démocratique. Les outils de vote peuvent s'avérer intéressants, et avoir du sens dans certains cas. Par exemple, pour les Français de l'étranger, pour les membres d'une association. François Poulain développe l'exemple de l'April. Voter en ligne permet aux membres, qui sont maintenant répartis sur quasiment tous les continents, de s'exprimer. La société CLIS21 a donc développé le logiciel J'ai voté. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ses services quelles sont les limites d'un tel vote, que les garanties sont moindres, et donc une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté, ainsi que les bases sur lesquelles déléguer la confiance. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ses services quelles sont les limites d'un tel vote et que les garanties sont moindres, donc qu'une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté ainsi que les bases sur lesquelles déléguer sa confiance. Quand l'enjeu est fort, pour des élections d'envergure comme celle de député ou du président, ce genre d'outil n'est pas souhaitable, n'est pas acceptable, voire inimaginable. Dans les autres cas, on pourra envisager le vote électronique, certes utile et pratique, en fonction des contraintes et des moyens du moment. Toute la difficulté réside dans le fait d'évaluer l'enjeu. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette thématique. Il faut expliquer aux citoyens la problématique avec tous les arguments et, suite à débat, leur demander ce à quoi ils acceptent de renoncer et donc quelle solution mettre en place. C'est l'appropriation par chacun et chacune, par notre personnel législatif, de tous les enjeux qui gravitent autour du vote et du vote électronique, qui nous fera progresser collectivement.
Nous sommes de retour en direct, donc nous avons écouté une rediffusion d'une chronique de Marie-Odile Morandi et mise en voix par Laure-Élise Déniel sur le thème du vote électronique. Nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, la semaine prochaine, ma collègue actuellement Isabella Vanni, qui est à la régie de l'émission, sera en compagnie de Bouquinette, la présidente de l'April, la Mixit, une conférence autour de la tech, de la technologie, l'éthique, et aussi avec des crêpes, donc mardi 29 avril 2025 à Lyon, sur le thème « Mieux inclure la diversité de genre dans le monde du libre », ça passe aussi par la radio, je suppose qu'il sera évidemment question de « Libre à vous ». Un atelier de gestion d'associations, de membres et de comptes avec PAECO, samedi 26 avril 2025, de 9h30 à 12h à Beauvais, est également disponible en visio. On a reçu récemment d'ailleurs PAECO dans l'émission Libre à vous du mardi 4 février 2025. Le podcast et la transcription sont disponibles. Je précise d'ailleurs que toutes les références que je cite actuellement, les liens sont sur la page consacrée à l'émission du jour, sur le site libreavoue.org/244. Un nouvel épisode de Share Alike, la série documentaire sur les licences libres et créations, est publié en ligne chaque lundi jusqu'au 19 mai 2025. Dans le prochain épisode de lundi 28 avril, l'interview de J, auteur, dessinateur, créateur de jeux vidéo, illustrateur et célèbre chroniqueur dans Libre à vous, ainsi qu'Aurélien Catin, auteur, membre du collectif L'Abuse et de l'association Réseau Salariat. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter l'interview de Tristan Duval et Pablo Albandea du collectif Land Ciné qui a créé la série Share Alike dans l'émission Libre à vous de 8 avril 2025. Il y aura également une présentation de Share Alike, une projection plutôt, mercredi 30 avril 2025 de 19h à 23h à Lille. Comme chaque premier samedi du mois, il y aura le premier samedi du libre, samedi 3 mai 2025, de 14h à 18h au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android avec les nombreuses associations présentes. Du côté de la radio, Cause Commune vous propose, comme chaque premier vendredi du mois, un rendez-vous convivial à partir de 19h30 dans les locaux de la radio, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Donc le prochain aura lieu le vendredi 2 mai 2025. Donc réunion d'équipe à ouverte publique avec apéro participatif, l'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. Je serai présent et je pense que d'autres personnes, peut-être de Libre à vous, d'autres émissions seront présentes. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du Liman, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Vous entendez la musique de générique, notre émission donc se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Julie Chomard, Salomé Yaya, Shérif, Cécilia Bossard, Marie-Odile Morandi, Laure Élise Déniel. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabella Vanni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Lélie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite et Tunui, bénévole à l'April. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/244 toutes les références utile de l'émission de ce jour ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour en discuter ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez nous laisser toutes questions ou nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 29 avril 2025 à 15h30. Notre sujet principal sera un café libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Le débat sera animé par Étienne Gonu. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 29 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.
Retour en FM à 21h et retrouvez nos programmes sur causecommune.fm et en DAB+ à Paris sur causecommune.fm et en DAB+ à Paris.
On aimerait vous rencontrer.
Ça vous dit ? Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt.
Tous les programmes de Cause Commune, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Cause Commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le 40e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Frédéric, Élise, Mehdi, Emma et moi-même, Julie, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Ce soir, sur le plateau de la radio Cause Commune, nous recevons Pascal Oltier et Julia Mèche. Bonsoir Pascal.